Chapitre 31. 21 h, vendredi soir. Plus que 23 h. Soleil couché. Température en chute libre, ciel d'encre. Ma tante était partie, elle avait pris une chambre d'hôtel pour la nuit. Tulipe était partie là où allait la chienne qui n'était pas ma chienne. Je tournais en rond dans ma petite chambre. Je chargeais et déchargeais mon pistolet. Je pensais à ma mère. Je m'efforçais de me souvenir de deux petits bébés, un frère et une sœur qui n'avaient jamais eu la moindre chance dans la vie. Manifestement, je m'étais trop peu servi de ma mémoire pendant le plus clair de mon existence pour pouvoir la ranimer comme par magie. J'ai essayé d'imaginer une maison, un jardin, un animal domestique, une femme, une odeur, quelque chose, n'importe quoi qui m'évoquerait mon ancienne vie. Pour finir, je me suis envoyé deux aspirines et j'ai boxé dans le vide devant mon miroir. La femme en face de moi avait les traits tirés, une gorge couverte d'hématomes violets, des cheveux bruns lissés en arrière, des yeux bleus de folle. Je ressemblais à ma mère, à 20 ans de distance. Abigail m'avait appelé le capitaine O. Abigail. J'ai frappé le miroir, subitement, rapidement. 1, 2, 3, boum, boum, boum. Je l'ai fracassé à main nue, et ensuite j'ai regardé les fragments brisés tomber en cascade sur le parquet, en une pluie argentée. Et l'espace d'un instant, la cuisine. Des rayons de clair de lune argentée, un feu qui léchait les murs. Ma logeuse Frances a frappé à la porte. « Ça va ? Désolée, un accident. Pas de problème, tout va bien. » J'ai regardé mes doigts ensanglantés. Un tesson de verre s'était planté dans le dos de ma main gauche. Je l'ai retiré, j'ai léché le sang qui perlait. Et ensuite, même si j'allais être en avance d'une heure, je suis partie travailler. L'agent McKerrett m'a mis le grappin dessus dans le parking. Il venait de garer sa voiture de patrouille. Il a ouvert sa portière, il est descendu, il m'a aperçu sur le trottoir mal éclairé derrière lui et, au lieu de se diriger vers la chaleur du commissariat, il est venu vers le froid de la rue où j'arrivais à pince de la station de métro. « Charlie ?» Sa voix avait déjà des accents d'avertissement. Je me suis arrêtée net, un lampadaire derrière moi, un devant moi. Bien campé sur mes appuis, le pied gauche en avant, une main gantée sur le rabat de ma sacoche. McKerrett m'a vu adopter cette posture et s'est arrêté à 3 mètres de moi. Sa main droite est descendue vers son arme de poing et il a basculé le poids de son corps en avant, prêt à bondir. Nous sommes restés comme ça pendant 15, 20 bonnes secondes, lui dans le halo d'un lampadaire, moi dans celui du suivant. Aucun de nous n'avait d'avantage ni de handicap. « Tu es armé ? » m'a-t-il finalement demandé. « Pourquoi cette question ?»« Je le sais. » Un coup de fil reçu aujourd'hui. Shepard t'attend à l'intérieur pour te confisquer le 22. Qu'est-ce que tu as fait, Charlie ? Je n'ai pas répondu à sa question. Je réfléchissais déjà à toute vitesse. La police de Boston, forcément. Les enquêtrices avaient compris ce que j'avais fait à Stan Miller. Le capitaine Hall avait pour ainsi dire reconnu en essayant de m'extorquer des aveux. J'ignorais comment, mais elles étaient en train de reconstituer le puzzle. Peut-être que Tomika s'était confiée à une amie d'amis. Peut-être que quelqu'un m'avait vu entrer non pas une, mais deux fois dans l'immeuble ce soir-là. C'était peut-être écrit. Une fille comme moi, avec une enfance pareille, ça n'avait peut-être jamais été qu'une question de temps avant que je cède à la violence meurtrière. Comment savez-vous qu'ils ont été étouffés, Charlie ? Comment ? Je le savais, c'est tout. Le petit corps pâle de Rosalind, douillettement enveloppé dans une couverture à pois rose pâle. Elle adorait cette couverture. Elle en avait serré la laine polaire soyeuse dans ses petits poings, elle en avait sucé le bord en satin. Je l'avais enveloppée. Après. Occupe-toi du bébé, Charlie. Ne la laisse pas pleurer, il ne faut pas la laisser pleurer. Sinon, maman va s'en prendre à nous deux. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais fait ?
Charlie ?
L'agent McKerrett, qui n'avançait pas d'un pouce, la main droite toujours à hauteur de la taille. 3 mètres entre nous. Une voiture passa, puis une autre. Ma main tremblait sur ma sacoche en cuir, même si je n'aurais pas su dire pourquoi. Je vais mourir demain, vers 20 h. On va m'étrangler et je ne résisterai pas. Aucune trace d'effraction, aucune trace de lutte. J'accueillerai la mort à bras ouverts. L'agent McKerrett m'observait. Je tire bien. Je me bats bien, je cours vite, je ne veux pas mourir comme mes amis. Je me suis déjà fait trop piétiner dans la vie. Si je dois partir demain, je veux emporter le tueur avec moi.
Charlie,
j'ai besoin de mon pistolet. Je sais que tu ne me fais pas confiance. D'ailleurs, tu ne me connais même pas. Mais j'ai besoin de mon pistolet. Encore une journée. 23 heures. Non, 36. Si le jour se lève dimanche matin et que je suis encore en vie, la police de Boston pourra l'avoir. Je te le remettrai. Je te laisserai le leur apporter personnellement. J'accepterai toutes les conséquences. C'est promis. Qu'est-ce que tu as fait, Charlie ? Randy est morte. Jackie est morte. Personne ne sait ni pourquoi ni comment, et encore moins qui a fait le coup. Mais c'était mes meilleurs amis, Tom. Je les aimais trop, je m'en rends compte maintenant. Mais elles ne s'en sont jamais plaintes. Elles m'ont aimée en retour et j'ai une dette envers elles. Demain, à 20 h, un tueur ou une tueuse va venir s'en prendre à moi et je vais lui faire payer. C'est tout ce qui me reste, Tom. Je n'ai plus de raison de vivre. Juste une raison de mourir. Il a fait un pas vers moi. Et si je te demandais de me donner ton sac ? M'a-t-il dit posément la main sur son étui. Je t'en prie, non. Tu saignes. Sans doute. Où est ta chienne ? Elle n'a pas laissé de message. Il a soupiré. Il n'a pas baissé la main, mais ses épaules se sont relâchées. Je ne sais pas quoi faire avec toi. Je n'ai rien dit, je l'ai laissé se débattre avec ses réflexions. Regarde-moi en face, Charlie. Regarde-moi en face et dis-moi que tu n'as pas fait ce dont la police de Boston te soupçonne. Je fermerai les yeux. Je partirai, je ferai comme si je ne t'avais pas rencontré. Je l'ai regardé en face. Je n'ai pas dit un mot. Il a soupiré avec accablement cette fois-ci. On lisait une vraie tristesse dans son regard. Je t'aimais bien, Charlie. Moi aussi, je t'aimais bien. J'aurais dû m'en douter, faut croire. J'ai la sale manie d'être attirée par les accidentés de la vie. Ma sœur dit que j'ai envie de jouer les héros. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'ai la sale manie d'en vouloir toujours plus que je ne peux avoir. On est assez fidèles à nous-mêmes. Ça n'a rien d'une fatalité. Je ne sais pas fonctionner autrement. Il a fait encore un pas vers moi. 2,50 m entre nous, puis 2 m, 1,50 m. À bonne distance de frappe. Un simple pas en avant, et je pouvais lui en coller une droite plongeante à la tête. Ou simplement ouvrir la sacoche et faire feu. J'ai pensé à Randy, à Jackie. Je me suis demandé si leurs derniers instants avaient ressemblé à ça. Si elles s'étaient exhortées à résister, ou si elles avaient simplement attendu que ce soit fini. L'agent McKeret s'est finalement arrêté, pratiquement nez à nez avec moi. Et la vapeur de nos haleines s'est mêlée dans l'air glacial de la nuit. Il avait toujours la main sur la crosse de son arme, pas pour dégainer, pour la protéger. 17 h, Charlie. 17 h ? C'est l'heure à laquelle je passerai te chercher. Demain soir. Je suis au courant pour tes amis, je me suis renseignée de mon côté. Si quelqu'un veut te tomber dessus, il nous trouvera tous les deux en face de lui. Sans rien dire, je scrutais son visage. Son expression déterminée, ses yeux bleus résolus. Dimanche matin, a-t-il continué avec fermeté. Tu me donneras ton 22 comme promis. J'ai hoché la tête. Après, je ne pourrai plus t'aider. Nouveau hochement de tête. Tu m'as sauvé la vie l'autre nuit, Charlie. Je crois que je te dois ça. Mais à partir de dimanche matin, considère qu'on est quitte. Sa main a bougé. J'ai cru qu'il allait me frôler la joue. J'ai peut-être même anticipé la caresse de ses doigts gantés sur ma peau glacée, ou le contact de ses lèvres chaudes sur ma bouche, ou la pression de son corps, puissant et ferme, contre le mien. J'ai froid, me suis-je dit, et puis j'ai compris que c'était juste que je me sentais trop seule. L'agent McKeret a tourné les talons, il s'est éloigné. J'ai encore attendu 1 minute, debout dans la pénombre, luttant contre l'envie de le rappeler. Sa silhouette aux épaules carrées est entrée dans le commissariat. Derrière moi, une autre voiture est passée à vive allure. J'ai attendu que la rue soit dégagée, le parking désert, et j'ai ouvert ma sacoche. J'en ai sorti mon Taurus 22 semi-automatique, je l'ai enveloppé dans mon écharpe et je l'ai enfoui dans un monticule de neige sous un buisson épineux en bordure du parking. En tirant avec mon 22 dans l'appartement de Stan, je m'étais associé à sa mort. Autrement dit, si le commandant Warren mettait la main sur mon Taurus, on m'enverrait en prison. J'aurais peut-être dû le leur donner. Au point où j'en étais, j'aurais peut-être été plus en sécurité en prison. mais je me suis souvenue de Tulip ce matin-là. Loin d'être reconnaissante de la chaleur de la chambre, elle avait simplement été irritée de son enfermement. Certains d'entre nous ne sont pas faits pour la claustration. Nous préférons tenter notre chance à découvert. 21 heures et des poussières. J'ai refermé ma sacoche en cuir noir. J'ai bombé le torse et je suis partie prendre mon dernier service.